Bosco, Douiman.
Bonjour à vous tous, nous sommes le 13 novembre 2019. Voici quelques grands titres de cette édition. L'administration provinciale Angosy accuse les responsables du parti CNL dans cette circonscription d'avoir violé les consignes données pour ouvrir les permanences communales ou zonales de leur parti politique. Il nie toute confrontation entre les militants du CNDD-FDD et ceux du Congrès national pour la liberté. Les agriculteurs de l'Outana réclament toujours de l'engrais. Les responsables dans ce domaine leur promettent qu'ils seront servis dès que ce produit sera disponible. Et dans la chronique éducation, on parlera des critères de choix d'un inspecteur pédagogique. Voilà pour les quelques titres.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Rebonjour, l'administration provinciale d'Angosy rejette toute information faisant état de confrontation qui aurait éclaté entre les militants des partis CNL et ceux du parti CNDD-FDD dimanche dernier en commune Nyamurenza lors de l'ouverture d'une permanence communale du parti CNL. Albert Ndouimana, gouverneur de la province d'Angosy, parle plutôt de violation par le parti CNL des consignes relatives à l'ouverture des permanences, déplorant des personnes qui ont été blessées. Ndouimana accuse le CNL d'avoir attaqué une population paisible. Suivez le gouverneur de la province d'Angosy au téléphone avec Placide Niyomongere.
Brièvement, il s'agissait d'une inauguration d'une permanence communale de Nyamurenza. Le parti CNL avait eu une permission de la part de l'administrateur, mais une lettre d'autorisation qui contenait une certaine clause qui a été faite au niveau de la rencontre que l'administrateur fait avec les leaders des partis politiques. Et la clause stipule que si c'est une activité communale, qu'elle intéresse les gens de la même commune. Chose étonnante, c'est que le parti CNL a voulu inaugurer l'orat le même jour. Il y a eu une grande venue des membres de ce parti en provenance de la commune de Kiremba et de Gachikanoa qui ont voulu entrer dans la commune par toute la frontière qui sépare les deux communes, la commune de Nyamurenza. Et ce qui s'est observé, c'est qu'en entrant et en sortant de la commune de Nyamurenza, ces membres du CNL ont commis des forfaits comme des coups et blessures. Le rapport que nous avons aujourd'hui, c'est que nous voyons qu'au niveau de la commune de Nyamurenza, près de 10 personnes ont été victimes de ces dégâts. Mais au niveau de la commune Gachikanoa, il y en a 3. Au niveau de la commune Kiremba, il y a 1. Et au niveau de la commune Malangara, il n'y a pas eu de dégâts humains, mais nous voyons une maison qui a été détruite. Il n'y a pas eu de confrontation, parce que s'il y avait une confrontation, de deux côtés, on aurait enregistré des victimes, mais les victimes aujourd'hui s'observent seulement chez les gens qui étaient sur les collines ou bien qui étaient tout près de la maison.
Ces militants du parti CNL à Nyamurenza justifient que les routes auraient été barrées par des jeunes des partis au pouvoir, d'où l'origine de ces échauffourées.
Non, c'est pas vrai, parce que si c'était resté à une route barrée par une bande organisée des jeunes, c'est qu'il y aurait une confrontation à ce moment-là. Les dégâts se seraient observés des deux côtés.
Donc, pour dire que ces membres du parti CNL ont attaqué une population paisible.
Oui, ils ont attaqué une population paisible parce que les victimes ne s'observent pas sur une seule colline, elles s'observent sur des collines qui sont éparpillées.
Est-il possible que ces membres de différents partis politiques préparent des élections paisiblement et qu'est-ce qui devrait être fait?
Ça, nous l'espérons très bien parce qu'il n'y a pas de situation tellement inquiétante. Alors nous demandons à ce que dans l'organisation des activités, il y a respect des consignes de régulation que nous convenons au niveau des réunions. Quand c'est une clause d'une réunion, ça devient comme une loi. Nous demandons à ce qu'il y ait respect de ces consignes-là.
Albert Ndouimana, c'est le gouverneur de la province de Ngozi. 4 partis politiques sur les 14 opérants en province Rumonge, 2 associations des 17 que compte cette province, sont ceux-là qui ont déjà introduit leur demande d'accréditation pour l'observation de l'enrôlement partiel pour les prochaines élections. Christine Kanungeko, présidente de la commission électorale provinciale à Rumonge, dit que cet effectif n'est pas bas au regard de l'affluence de ceux qui viennent s'enquérir de la nature des documents exigés et espère que cet effectif va se relever d'ici vendredi, dernier jour de dépôt des dossiers. Jean-Pierre Misako.
Jusque ce mardi, 4 partis politiques sur les 14 qui opèrent en province Lomongué étaient les seuls qui avaient déposé les dossiers de demande d'accréditation pour l'observation du prochain enrôlement partiel, comme le dit Christine Kanungeko, présidente de la commission électorale provinciale indépendante de Lomongué. À ces partis politiques s'ajoutent deux associations des 17 opérant en province Lomongué, selon la présidente de la CEPI Lomongué, qui espère avoir un effectif plus élevé ce vendredi, date d'expiration de la période de prolongation décidée par la CENI à cette fin. Elle fonde cet espoir sur l'affluence de ceux qui viennent s'informer sur les éléments constitutifs du dossier, comme c'était le cas ce mercredi. Du côté des partis politiques comme le FNEL et le CNDD qui n'ont pas encore déposé leur demande d'accréditation, ils indiquent qu'ils préparent encore les dossiers. Du côté du Rana Karumongue, Léopold Naïsaba, son représentant provincial à Lomongué, dit qu'au niveau de Lomongué, ce parti est intéressé par les élections proprement dites. Les associations et les confessions religieuses qui auront leur accréditation sont celles qui ont formulé au préalable leur demande d'accompagner la CENI dans les prochaines élections, informe Christine Kanungeko. Jean-Pierre Misago depuis Lomongué, Radio Isanganiro.
Et c'est ce mardi que la Commission Vérité et Réconciliation a commencé de rendre public les résultats des dépositions sur les crises qui ont secoué la commune de Wugendana depuis 1885 à 2008. Le président de cette commission dit que c'est pour permettre aux élus collinaires d'approcher la population afin de vérifier si certains éléments qui s'y trouvent, comme les auteurs des crimes ainsi que l'emplacement des fosses communes, sont corrects ou s'il y a besoin des ajouts. Quant aux inquiétudes des uns et des autres, que les gens vont avoir peur de s'exprimer, le président de la CVR dit que le contenu sera transmis aux instances supérieures dans la confidentialité. C'est un reportage d'Arthur Cavaouche.
Dans la commune Bougendana, durant la période de 1885 à 2008, il se compte 825 morts, 6 fausses communes dans la zone Bitare, 36 dans la zone Bougendana, 5 dans la zone Mugera et 13 dans la zone Mutoi, comme ça se trouve dans les enquêtes menées par la CVR. Pierre Claverne d'Aïtalier, président de cette commission, indique qu'ils veulent des informations supplémentaires.
C'est principalement dit aux représentants de la population des collines de Bougendana, des zones de Bougendana. Voici les informations que vous nous avez communiquées. Est-ce qu'il y a des erreurs dans la restitution? Est-ce qu'il y a des oublis? Est-ce qu'il y a des informations qui manquent? Nous leur avons demandé aussi d'aller sur les collines, travailler pour compléter les informations, compléter, enrichir les informations sur les personnes assassinées ou disparues, les informations sur les personnes qui auraient protégé les autres, les informations sur les fosses communes éventuelles qui pourraient être localisées sur la colline.
Cependant, certains chefs de colline disent qu'ils craignent que certains individus puissent avoir peur de parler, de peur d'être dénoncés. À cela, le président de la CVR tranquillise en disant que ces listes seront confidentielles.
La liste relative aux présumés auteurs que nous aurions déjà récoltée, elle n'est pas diffusée au niveau de la commune parce que ce genre d'informations mérite des enquêtes plus approfondies. Ces listes de présumés auteurs sont communiquées au pouvoir public qui nous ont mandatés par la voie la plus confidentielle possible.
Ce président de la CVR veut savoir que même les Burundais vivant à l'étranger et en exil seront écoutés et que même certains ont déjà envoyé leurs dépositions qui sont en train d'être traitées. Cette activité va s'étendre dans toutes les communes du pays. Depuis la commune de Bougendana, de la province de Gitega, Arthur Kavabushi, Radio Isanganiro.
Merci Arthur. Doter l'Office burundais des recettes OBR de ses propres locaux, le renforcement de la lutte contre la fraude et la corruption sont quelques-unes des perspectives d'avenir de cet office. Un rapport récemment sorti par l'OBR à l'occasion de son 10e anniversaire ainsi que la célébration de la journée du contribuable 4e édition souligne que l'insuffisance et la vétusté des équipements hantent cet office. Mireille Kanyang.
L'OBR a connu certaines difficultés selon ce rapport décennal. C'est notamment le processus d'informatisation qui n'est pas encore total, le manque de sièges propres à l'OBR, des bureaux dispersés, ce qui augmente le coût de transaction des contribuables. Les outils légaux utilisés par cet office qui restent à mettre à jour. Dans le but de poursuivre l'optimisation de la collecte des recettes, l'OBR a identifié plusieurs initiatives. Ce rapport fait référence notamment au renforcement de la lutte contre la fraude, la corruption et la contrebande, la simplification des procédures douanières ainsi que la multiplication des séances d'éducation et de sensibilisation au civisme fiscal afin d'élargir l'assiette fiscale. Ce rapport de 2009 à août 2019 montre également qu'en 2009, l'OBR a collecté plus de 301 milliards de francs burundais contre plus de 836 milliards durant l'exercice fiscal 2018 et de janvier au mois d'août de cette année, les recettes s'élèvent à plus de 630 milliards de francs burundais. Sur des ressources du budget général de l'État, exercice 2019-2020, évaluées à plus de 1327 milliards de francs burundais, les produits fiscaux sont chiffrés à plus de 854 milliards de francs burundais.
Mireille Kanyang, plus de 300 millions de femmes et filles utilisent aujourd'hui une méthode de contraception moderne dans 69 pays à faible revenu. Selon le rapport du Planning Family 2020 sorti ce lundi, c'est la première fois que les chiffres d'adhérents atteignent ce sommet. Et c'est au moment où au Burundi, ce rapport parle de près d'un demi-million de femmes qui utilisent aujourd'hui une méthode moderne de contraception. On fait le point avec Raissa Liliane Namahoro.
Ce rapport de la plateforme Planning Family 2020 se base sur les enquêtes menées dans 69 pays à faible revenu, le Burundi y compris. Dans les 7 dernières années, 53 millions d'utilisatrices se sont ajoutées et 9 millions uniquement au cours de l'année passée, explique le document. Aujourd'hui, poursuit Planning Family 2020, 314 millions de femmes et de jeunes filles ont été admises aux différentes méthodes de contraception. Planning Family 2020 constate que c'est la première fois que les chiffres d'adhérents atteignent ce sommet. C'est au moment où au Burundi, ce rapport parle de près d'un demi-million de femmes utilisant une méthode moderne de contraception avec environ 144 000 utilisatrices supplémentaires depuis 2012. Et en 2014, le Burundi est devenu un pays engagé pour le planning familial. Depuis lors, Planning Family 2020 conclut que le Burundi a fait des progrès en matière de la planification familiale. Par conséquent, ce nouveau rapport estime que grâce à l'utilisation de méthodes contraceptives modernes au Burundi, plus de 170 000 grossesses non désirées ont pu être évitées. Planning Family 2020 trouve aussi qu'au Burundi, près de 44 000 avortements pratiqués dans de mauvaises conditions et 100 000 décès maternels ont pu être évités au cours de la seule année écoulée, ce qui a coûté un montant de 1,5 milliard de dollars américains, conclut Planning Family 2020. Au Burundi, poursuit Planning Family 2020, le taux de prévalence de la contraception moderne est estimé à 17,1% de toutes les femmes en âge de procréer sur les 34% qui était attendu. Ce rapport du Planning Family 2020 indique que 7 donateurs ont augmenté leur financement de la planification familiale en 2018. C'est le Canada, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis. C'est en Inde, au Bangladesh et en Indonésie que les dépenses publiques intérieures sont les plus élevées sur les 69 pays.
Raissa Liliane Inamahoro. Le métier d'enseignant n'est pas attractif au Burundi et les enseignants sont confrontés au manque de matériel nécessaire pour accomplir leur mission. C'est cela, entre autres, défi que compte résoudre la politique nationale enseignante du Burundi. Le document relatif qui vient d'être validé propose l'implication des organisations non gouvernementales œuvrant dans le secteur de l'éducation pour trouver solution à ces problèmes. Dans la suite du contenu de cette politique enseignante, nous vous proposons aujourd'hui les conditions de travail des enseignants et des propositions faites pour les améliorer.
Autre défi que contient ce document éducatif, l'absence d'une politique nationale claire sur le logement des enseignants. Les mêmes enseignants éprouvent des difficultés au cours de l'exercice de leur métier suite à l'existence des infrastructures scolaires ne respectant pas les normes ergonomiques. L'absence de chartes d'éthique et de déontologie de l'enseignant supérieur, précise-t-il. De plus, le déficit de concertation entre les partenaires éducatifs de l'école, des cas de mauvaise gestion administrative des écoles et certains enseignants du secteur privé qui ne sont pas impliqués dans la gestion des écoles hantent également le secteur de l'éducation au Burundi, énumère ce texte. Malgré cette situation, la politique enseignante fait le constat de l'existence d'une fondation pour le logement des enseignants ainsi que l'existence des normes et standards de construction et équipements scolaires. Il existe également, lit-on dans le même document, l'ordonnance ministérielle fixant les principes généraux applicables aux personnels enseignants des établissements d'enseignement supérieur. Il note également la mise en place des comités de gestion des écoles en ce qui est de la gouvernance scolaire. Comme suggestion, ce texte compte sur les appuis des organisations internationales pour l'élaboration des documents relatifs au système éducatif. L'existence d'un cadre régional d'évaluation des performances au sein de la communauté est-africaine ainsi que les appuis des partenaires techniques et financiers contribueraient à l'amélioration de l'enseignement au Burundi, recommande la politique enseignante du Burundi.
Elie Nibel Nibigira grogne des agriculteurs de la province de Rutana qui n'ont pas reçu des engrais chimiques alors qu'ils ont payé tous les frais irrelatifs. Le directeur provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Rutana tranquillise et dit qu'environ 30 tonnes d'engrais chimiques Fomi Imbura sont attendues et seront distribuées à qui de droit aussitôt qu'ils seront disponibles. Gérard Nibigira.
Ces agriculteurs qui n'ont pas eu d'engrais chimiques alors qu'ils ont payé tous les frais irrelatifs disent que certains parmi eux ont semé sans engrais ni fumure quelconque et que d'autres ont emprunté à leurs voisins ces engrais chimiques appelés Fomi Imbura. Pour éviter que de tels cas ne se reproduisent dans l'avenir, ils proposent l'identification et l'enregistrement des demandeurs d'engrais chimiques de façon attentive pour que les ayants droit soient servis à temps. De son côté, le directeur provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Rutana, Pierre Claveri-Bagorikunda, affirme qu'il y a encore environ 30 tonnes d'engrais chimiques Fomi Imbura qui sont toujours en attente et qui seront servis aux endroits non encore servis aussitôt qu'ils seront disponibles.
Les prévisions pour cette année pour Fomi Imbura assimilé au DAP, il était prévu 1281 tonnes. On a déjà distribué 1252 tonnes 75 kg, c'est-à-dire qu'il reste 28 tonnes 925 kg pour qu'il puisse être servi.
Il explique que le fait de permettre aux gens qui n'avaient pas payé l'avance d'acheter ces engrais chimiques sur place est à l'origine de cette perturbation.
Il y a eu un moment sur la demande de la population où on a autorisé la population de payer la solde à même état que l'avance. Donc les gens qui n'avaient pas pu payer l'avance l'autorisation de payer en même temps. Cela a conduit à ce que les quantités demandées soient plus supérieures aux quantités prévues. Ça a conduit à une certaine pénurie parce qu'on ne s'y attendait pas que les choses allaient se passer ainsi.
Il termine en indiquant que ces jours-ci, les agriculteurs de Rutana font beaucoup recours aux engrais chimiques. Depuis Rutana, Jani Bigira pour Radio Isanganiro.
Parle, rassure-moi.
Le discours d'intimidation est caractérisé par des mots menaçants utilisés par une personne ou un groupe de gens à l'encontre d'un autre groupe. C'est l'explication du coordinateur d'une association chargée du développement communautaire et de la cohésion sociale qui souligne que ce discours est dit de façon implicite ou explicite. Emmanuel Ninonze fait savoir que ceux qui utilisent ce genre de discours visent l'accaparement des biens des autres ou leur délocalisation. Ornella Mucho.
Le discours d'intimidation peut être caractérisé par des mots ou des gestes, comme par exemple le regard menaçant utilisé de façon directe ou indirecte. Explication d'Emmanuel Ninunze, coordinateur de l'association chargée du développement communautaire et de la cohésion sociale.
Les discours d'intimidation sont caractérisés par des mots grossiers, par exemple, par des attaques qui ne sont pas visibles, c'est-à-dire des attaques verbales. Un regard aussi peut caractériser une intimidation en quelque sorte. Et puis, un groupe, par exemple, de personnes peut être mandaté par un individu ou un autre groupe pour intimider un groupe quelconque ou bien un individu.
Ce langage est utilisé dans le but de menacer afin d'arriver à ses fins.
Ces discours sont utilisés des fois pour des fins individuelles, politiques. Par exemple, quelqu'un peut intimider l'autre pour qu'il quitte l'endroit et puis occuper sa maison. Quelqu'un peut intimider l'autre parce qu'il est populaire, pour qu'il ne vienne pas en avoir, par exemple, dans des campagnes de sensibilisation politique.
Selon toujours Emmanuel Ninonde, tout peuple qui veut se développer doit bannir les messages d'intimidation.
Par exemple, un groupe était un projet de développement de la localité. Il y a d'autres personnes mal intentionnées qui ne veulent pas que Zéjara se développe et par conséquent développer la localité. Ils peuvent utiliser ce discours pour les intimider afin d'abandonner le projet et si possible de quitter pour la simple raison de ne pas les voir se développer. Il n'y a pas de développement.
Dans nos prochaines éditions, notre personne ressource montrera comment les discours d'intimidation peuvent conduire aux violences de masse et comment les contrecarrer.
Et en bref, avant la chronique éducation, les joueurs de l'équipe nationale de football Inhamba Murugamba sont prêts à affronter la sélection nationale centrafricaine cet après-midi à Bangui. Ce sera à 15h, heure de Bujumbura. L'information a été donnée par le porte-parole de l'équipe nationale Inhamba Murugamba. Et concernant l'absence dans cette rencontre des anciens joueurs habitués aux compétitions internationales, Kibuga Ramadan fait savoir que la nouvelle sélection nationale est déterminée à représenter dignement le Burundi.
Radio Isanganiro, chronique éducation.
Je l'avais annoncé dans les titres, le choix d'un inspecteur pédagogique s'effectue parmi les enseignants les plus expérimentés qui ont des mérites dans l'exercice de leur métier par rapport à leurs collègues. D'après le psychopédagogue et professeur d'université Joseph Ndayisaba, l'inspection de l'enseignant permet aux gestionnaires de l'éducation de recadrer les démarches pédagogiques et l'organisation des séances de renforcement des capacités. La chronique éducation est signée Charles Macotre.
Les inspecteurs pédagogiques sont choisis parmi les enseignants les plus performants et les plus expérimentés que les autres, dit le psychopédagogue et professeur d'université Joseph Ndayisaba. Dans notre chronique précédente, l'expert nous a fait savoir que l'inspection s'effectue dans l'optique de redressement et d'évaluation des compétences pour une éventuelle promotion. Il indique qu'un enseignant non expérimenté ne peut pas orienter ses confrères du métier.
Un inspecteur doit être quelqu'un par rapport au rôle qu'il joue, qui a quand même des compétences un peu plus consistantes que l'enseignant qui va inspecter. Vous envoyez un jeune qui vient de sortir juste de l'école pour aller inspecter les autres, ça ne marche pas. Il faut que ce soit quelqu'un qui a une certaine expérience, qui a des compétences avérées. En général, les inspecteurs, c'est des gens qui sont supposés avoir des compétences au niveau supérieur de la moyenne des enseignants qui vont inspecter. C'est évident. Le pôle des inspecteurs est généralement composé de ces enseignants, effectivement, qui ont une certaine expérience. Normalement, ce sont ces mêmes enseignants qui sont supposés être affectés dans les bureaux pédagogiques pour gérer les programmes de formation.
Après chaque inspection pédagogique, l'inspecteur dresse un rapport qui est transmis aux responsables scolaires. L'expert Joseph Ndayisaba nous explique ici que ce rapport permet de décider si les réformes sont nécessaires en vue d'améliorer les pratiques pédagogiques.
Ces inspections sont suivies de rapports. Ceux qui ont fait des inspections font des rapports sur ce qu'ils ont constaté. Alors, ils peuvent constater par exemple qu'une branche donnée, les enseignants pratiquent une méthodologie qui n'est pas correcte, qui n'est pas conforme aux instructions du ministère. Dans ce cas, le ministère, sur base de ces rapports, il peut décider d'organiser par exemple, des formations continues sur certains aspects de cette branche. Donc, les informations que les inspecteurs récoltent et consignent dans les rapports doivent servir effectivement au ministère à moduler ce qui se passe ou à corriger ce qui se passe dans les écoles, notamment au niveau des formations continues.
Le psychopédagogue trouve que l'insuffisance des moyens est l'un des défis qui fait que les inspecteurs ne remplissent pas correctement leur mission de suivi des enseignants.
Merci Charles Makoto. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par François Akimana. Au micro Jean Bosco Ndouimana, nous souhaitons passer un très bon après-midi.